France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France s'intéresse ce soir à la France des permis de conduire avec des délais d'attente et au final des coûts financiers qui ne sont pas toujours les mêmes selon les régions. Nous entendrons le témoignage d'une jeune conductrice qui a finalement renoncé à repasser son permis en Île-de-France après un premier échec. Elle nous expliquera pourquoi elle a choisi Dreux pour sa seconde tentative. Puis nous recevrons le directeur d'une agence auto-école, non pas une agence traditionnelle mais une appli qui permet de réviser le code avant de passer l'examen, puis la conduite. Enfin, nous verrons à quel point ce sésame est un marqueur social important, notamment chez les jeunes, pour qui avoir accès au volant est non seulement une forme de responsabilité, mais aussi et peut-être surtout une autonomie. Et puis nous constaterons avec notre troisième invité à quel point le permis est plus important à la campagne qu'en ville. Vous écoutez donc Une semaine en France. On va gentiment rouler ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue à bord.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec donc un premier témoignage, nous sommes en ligne avec une jeune conductrice qui vient d'obtenir son permis et nous allons voir justement dans quelles conditions. Bonsoir Pauline Patisse.
Bonsoir.
Vous avez 25 ans, vous habitez en région parisienne, mais c'est finalement à Dreux, en Eure-et-Loire, que vous avez choisi de passer une seconde fois et d'obtenir finalement votre permis de conduire après un premier échec en région parisienne. Faudrait peut-être commencer par nous expliquer comment s'est passée votre première tentative pour obtenir ce permis en région parisienne. Vous aviez trouvé facilement dans des délais que vous souhaitiez ?
Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé le permis en région parisienne, j'ai eu un délai au bout de mes 13 heures de conduite, au bout de 6 mois, donc le temps de faire les heures, c'était correct.
Au départ, pour passer votre permis de conduire en région parisienne, vous aviez envisagé quel budget ?
Un budget classique qu'on retrouve dans les auto-écoles en région parisienne, c'est 1 500, 1 600 pour les automatiques et 1 200 pour la manuelle.
Et pour votre deuxième tentative, donc, vous êtes allé passer le permis à Dreux. Pourquoi ce choix, Dreux ?
Parce que quand j'ai voulu repasser mon examen, on avait une date dans 5 mois, donc c'était un peu long, et je suis passée par une plateforme indépendante pour le repasser plus rapidement.
Plus rapidement, une sorte de formation express, ça se passe comment ? Avec un accompagnement clé en main, c'est une formule qui ressemble à quoi ?
C'est une formule qui vous donne une date avant de vous proposer quelques heures de réajustement de conduite.
Donc avec quel délai ? Et pour quel coût là aussi ?
Un délai de, vous avez une date sous 3 semaines, 1 mois, et puis le coup, il propose différentes formules en fonction des heures de conduite dont vous avez besoin. Et moi, si c'était une formule à 1 300 avec 10 heures de conduite.
1 300, c'est quelques centaines d'euros de plus que ce qu'on vous a proposé en région parisienne, non ?
C'est ça, pour le repassage d'examen, j'avais pas le choix, il n'y avait qu'une formule, c'était 1 000 euros et avec une date dans 5 mois.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à opter pour cette formule express ?
Le travail, j'ai besoin du permis pour le travail.
Vous avez connu cette formule express comment ? À 1 200 euros ? Comment est-ce que vous étiez au courant de cette formule ?
J'avais entendu pas mal de proches qui parlaient du permis en province, donc je suis allé chercher sur internet les formats qui existaient.
Donc il y a une bonne publicité pour ces formules sur le net. À Dreux, vous avez tout de même raté votre permis pour la seconde fois, mais de peu, en fait, vous avez été repêché. Comment est-ce possible d'être repêché après un échec au permis ?
C'est pas une question de repêchage, j'ai recontacté la plateforme pour souscrire à une nouvelle formule. Et cette fois-ci, il y avait un prix dégressif pour ma troisième tentative.
Pour les jeunes, pas une goutte d'alcool au volant pour les permis probatoires comme le vôtre, sous peine de voir le sésame annulé. Est-ce que vous respectez cela ? Et est-ce qu'autour de vous, les jeunes conducteurs respectent soigneusement cette obligation ?
Oui. Autour de moi, en tout cas, ils respectent.
Bon, bien, merci de ce témoignage, Pauline Patisse, jeune nouvelle conductrice. On va s'intéresser à présent à ceux qui redoutent de perdre leur permis à force d'amendes et de pertes de points. Chaque année, 350 000 automobilistes font un stage de récupération de points. Le nom officiel, c'est stage de sensibilisation à la sécurité routière. Exemple dans ce reportage à Saint-Nazaire. On vous présente deux jeunes stagiaires, Kevin et Noah. Ils suivent une formation sous la houlette d'Action Sécurité Routière 44, co-animée par la psychologue Laurence de Calou. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
Quatre groupes. Vous optez pour quelle couleur ?
Les rouges.
Vous ? Noir, vert.
Question-réponse, débat, projection. Laurence de Calou repère très vite les petits jeunes.
Ils font la tête en arrivant en général. C'est qu'ils ont conscience que le permis de conduire, c'est compliqué à avoir. Et une fois qu'ils l'ont, c'est la liberté, l'autonomie. Et, ils ne veulent pas le perdre tout de suite. Quoi. Enfin, ils n'ont pas forcément envie de le perdre. En conduite, ça s'appelle comment ? Temps de réaction, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui peut allonger le temps de réaction ? Téléphone ? L'alcool ? La fatigue ?
Alors, vous, Noah, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, j'ai la mauvaise habitude d'accrocher ma ceinture après avoir passé ma première. C'est pas une bonne idée quand il y a les forces de l'ordre juste à côté. Et du coup, ça m'a valu 3 points. C'était à 3 jours quasiment de la fin de mon probatoire.
Ah non, là, les boules, hein, si je puis me permettre.
Ah bah là, j'étais déçu.
Cauchemar.
Cauchemar, ouais.
C'est vrai que la première année, il faut surtout pas perdre 2 points. Quand ils commencent à perdre des points la première année, tous ceux à qui c'est arrivé, même s'ils ont gardé leur permis, c'est une grosse galère. Parce que c'est comme un découvert à la banque, hein, la perte de points. C'est que plus on descend bas, plus c'est long pour remonter.
Et comme les agios, eh bien ça peut faire mal.
Après avoir déjà eu son permis, donc déjà payé beaucoup de cours, tout ça, et de se faire arrêter, de se dire qu'il faut payer une amende. Et suite à ça, recevoir un courrier disant qu'il faut que je participe à un stage de récupération de points, alors que techniquement, il m'en manque que 3, c'est un peu deg, surtout qu'il faut repayer 250 €. C'est pas forcément facile quand on est jeune, quoi.
En général, un jeune qui vient là, c'est pour de petites infractions.
Les petits jeunes, souvent, c'est vitesse. Ça peut être téléphone, et puis de temps en temps, il y en a, c'est alcool, mais c'est plus rare. Parce qu'ils ont un permis avec peu de points, et savent que s'ils débloquent la première année, le permis, c'est fini, quoi.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Oui, parce qu'on n'arrête pas de dire que les jeunes boivent, etc. Sauf que le premier facteur d'accident chez les jeunes, c'est la vitesse.
Première raison de perte de points.
Voilà.
Justement, Kevin vient de payer cher.
Un excès de vitesse de 20 km/h. J'étais sur la fin de mon probatoire.
Combien de points en moins ?
2 points en moins.
Donc le flip, quoi.
Ah, ça commence à être juste.
Pied sur le frein, les mecs. Laurence y va cash avec les jeunes hommes.
Déjà, les hommes sont moins sérieux au volant en général. Et quand ils sont jeunes, les filles, elles vont rouler moins vite, elles vont être plus raisonnables. Un garçon, en plus, au niveau du cerveau, il y a une connexion qui n'est pas finie jusqu'à 25 ans entre le centre de plaisir et le système préfrontal qui fait que, en fait, je me fais plaisir sans penser aux conséquences. C'est la prise de risque qui n'y a pas chez la fille parce que la fille, elle est connectée plus tôt à ce niveau-là. C'est physiologique.
Un bémol, le mauvais exemple de certains de leurs aînés.
Notamment un stagiaire, il habitait à Nantes, il travaillait à Angers. Il expliquait qu'il faisait la route tous les jours et comme il s'ennuie, quand il conduit, il se prend sa tablette et il regardait Netflix aller-retour.
Et alors là, ce stage, oh là, le sourire.
Honnêtement, je viens là juste pour récupérer mes points et me faire rembourser de mon amende parce que c'est vraiment un stage un peu ennuyant, on va dire.
Mais en même temps, je trouve ça génial. Ça peut aussi éventuellement faire changer de comportement, faire plus attention.
Oui, je peux comprendre. Après, maintenant, les chiffres, on en voit beaucoup plus à la télé. Il y a beaucoup plus de sensibilisation sur tous les réseaux. Donc un stage où ils nous répètent encore les mêmes choses, je trouve que c'est un peu inutile, quoi.
Pour un jeune, il faudrait revoir quoi ?
Avoir plus de points plus rapidement, les avoir progressivement sur tous les points. Tous les 2 mois, qu'on prenne un point ou 2, et comme ça, on a moins peur de faire une... je sais pas comment expliquer, moi. Pénaliser pour une petite erreur un jeune permis, ça pénalise sur longtemps, comparé à pénaliser une personne plus âgée qui a tous ses points et qui du coup est beaucoup moins proche d'un stage de récupération de points, de payer, de continuer de se rajouter des emmerdes.
Voilà donc pour ce micro ouvert de Sandrine Houdin dans un stage de récupération de points. Nous étions à Saint-Nazaire. Eh bien, je vous présente maintenant un réseau d'auto-école qui n'est pas traditionnel. Bonsoir Edouard Rudolph.
Bonsoir à tous.
Vous êtes directeur d'En Voiture Simone et aussi vice-président de la Fédération des enseignants et auto-écoles d'avenir. Depuis 10 ans, En Voiture Simone est une start-up d'auto-école en ligne. Il faut expliquer comment ça fonctionne d'ailleurs.
Oui, très simplement, vous téléchargez l'application En Voiture Simone, vous pouvez vous former au code de la route
en ligne. Ensuite, c'est un peu comme sur Doctolib, vous allez pouvoir réserver un enseignant ou une enseignante sur un point donné, un jour donné, un horaire donné. Donc, quasiment en bas de chez vous, c'est souvent le métro, le lycée, la mairie, etc. Vous faites vos heures de conduite et le jour J, votre enseignante ou votre enseignant vous amène au permis de conduire, à ce fameux examen du permis de conduire, et ça vous coûte 30 à 40% moins cher que dans une auto-école dite traditionnelle.
C'est parce que c'est sur en ligne, sans coût d'agence, que vous avez réussi à baisser les coûts ?
Exactement. Grâce au digital, en fait, on arrive à faire énormément d'économies. Et cette économie, on vient d'un côté baisser le prix du permis de conduire pour l'élève, et d'un autre côté, on vient mieux rémunérer aussi l'enseignant, ce qui nous permet de capter les meilleurs enseignants du marché en France.
Et est-ce que votre formule permet de réduire les trop longs délais d'attente parfois en France avant de passer l'examen ?
Alors malheureusement non. Parce que l'État est dans l'équation, à la fois sur donc l'examen du code de la route et puis l'examen donc du permis, qu'on appelle l'examen pratique. On a longtemps milité pour que le code de la route soit externalisé, ça a été le cas en 2016, donc aujourd'hui vous pouvez le passer à la poste principalement, ça vous coûte 30 euros, c'est extrêmement fluide. Donc ça c'est absolument génial parce qu'il n'y a plus du tout de délai d'attente pour nos concitoyens.
Ça dépend des régions, il y a des régions où c'est plus long que d'autres ?
Non, sur le code de la route c'est extrêmement fluide partout.
Et pour la conduite ?
Pour la conduite par contre là c'est une autre histoire. Vous pouvez avoir des délais qui peuvent être supérieurs à 6 mois. Votre auditrice le spécifiait, ça pouvait même être il y a quelques mois encore jusqu'à 10 mois sur certaines zones. Donc il y a des zones qui sont très tendues en France, il y a 15 départements qui sont dans le rouge.
On peut dire en gros où ça se passe, où c'est le plus tendu ?
C'est là en fait où il y a du monde, donc c'est l'Île-de-France avec tous ses départements, ça va être le Rhône évidemment, et enfin voilà, tous les départements où il y a du monde. Et là, en effet, c'est compliqué d'avoir une date au permis de conduire. C'est compliqué lorsqu'il y a un échec de réavoir une date. Et le délai au permis de conduire est le principal responsable du coût. Le coût, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 800 euros pour l'obtenir dans une auto-école traditionnelle en France.
Et chez vous, donc ?
Chez nous, c'est 1 200 euros. Mmh. Voilà, grâce à ces économies de coûts. Mais malheureusement, on peut pas jouer sur le délai. Comme en auto-école traditionnelle, ils peuvent pas jouer sur le délai, on peut pas jouer sur le délai.
Vous êtes moins cher que les écoles traditionnelles. Votre taux de réussite au permis de conduire par rapport aux agences traditionnelles ?
Alors, il a 5 points de plus. Et ça, c'est très simple.
Et en moyenne, c'est combien le taux de réussite dans une agence traditionnelle ?
Vous êtes à 60%.
Et donc 5 points de plus, 65% pour vous. Comment avez-vous vécu d'ailleurs les critiques parfois sévères au départ des agences traditionnelles d'auto-école qui accusaient votre modèle d'être illégal ?
Alors donc ça c'était en 2016 parce qu'on a eu un procès justement.
Que vous avez gagné.
On comprend on a compris qu'elles défendent leur précaré. On aurait certainement fait la même chose à leur place. En tout cas, nous on a gagné l'ensemble de nos procès. On a fait jurisprudence sur le modèle de l'auto-école en ligne en France et aujourd'hui il est absolument pas remis en cause, bien au contraire.
Il y a à peu près 2 ans, Emmanuel Macron a baissé l'âge de pouvoir accéder au permis de conduire, 17 ans aujourd'hui. Ça a créé un afflux. C'est ce qui explique qu'en France aujourd'hui, trop d'examens, pas assez d'examinateurs ?
Alors en effet, donc il y a 1200 inspecteurs au permis de conduire pour l'examen pratique. Le permis a été ramené à 17 ans, donc il y a une classe d'âge qui est arrivée. Il y a le CPF, le compte personnel de formation aussi, qui était ouvert à la moto, qui a amené beaucoup d'examens. Et du coup, ça a changé, heureusement. Mais bon, il y a quand même eu un afflux de candidats. Et donc, les inspecteurs étaient sur ces examens et n'étaient pas ailleurs pendant ce temps-là. Donc, ça a rallongé les délais. Aujourd'hui, on est dans une vraie crise systémique sur 15 départements en France. La direction à la sécurité routière est très mobilisée et on contribue activement d'ailleurs à les aider à trouver des solutions. Donc notamment revoir la fameuse erreur éliminatoire, le fait de ne pas être bête et méchant. Vous oubliez un clignotant et qu'il n'y a aucun danger à côté, vous ne devriez pas forcément être ajourné. Le fait de faire des examens blancs de manière systématique, parce que c'est pas le cas en auto-école, eh bien ça devrait être fait. Et puis pourquoi pas, comme en Belgique ou comme au Royaume-Uni, inclure dans la formation un test de perception des risques. C'est-à-dire de regarder en fait une vidéo avec un véhicule qui va se comporter dans un certain environnement et l'utilisateur va devoir donc pointer les différents risques qu'il identifie. Et en Belgique, ça fonctionne très bien.
Vous espérez importer un peu ce modèle-là aussi
Ça améliorerait, oui, voilà, si, le système.
Merci beaucoup, Édouard Rudolph, directeur de En voiture Simone. Je vais citer d'autres marques, d'autres noms de sites un peu comme le vôtre. Ornicar, Stitch, Codeclic ou bien Prépacode, En voiture Simone, en hommage à Simone Louise Pinet, qui fut dans les années 20 l'une des premières femmes à avoir
obtenu le permis de conduire et ensuite à ouvrir son auto-école.
Voilà. Merci beaucoup, Édouard Rudolph. Vous écoutez Une semaine en France, c'est aussi une équipe. Juliette Gou à la réalisation, Charline Legris, rédactrice en chef. Grand merci également à Benjamin Ducy qui m'a aidé à préparer ce programme. Dans un instant, nous verrons à quel point le permis de conduire est une source d'émancipation et d'accès à la vie sociale. Il est 18h37. Right off the balcony, old dead palms wrap my eyes so tight, gave me no chance to kiss you Song, c'est le titre de cette chanson de l'Irlandais Dove Ellis et c'est le choix de Chewbacca.
France Inter, le 18-20.
La suite d'une semaine en France sur ce permis de conduire qui ne se passe pas toujours dans les mêmes conditions selon les régions de France. Pénurie d'inspecteurs. On va voir à présent avec vous Maxime Duviaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant et chercheur en sociologie à l'université de Limoges et auteur du livre « Conduire pour grandir, sociologie d'une jeunesse automobile » paru l'an dernier chez l'Harmattan. On va donc voir avec vous ce que représente ce sésame, notamment du point de vue de l'émancipation et du rapport que cette cette jeunesse entretient désormais avec la voiture. Alors vous parlez, Maxime Duviau, de relations ambivalentes et complexes quand on évoque les jeunes et la voiture. Cette ambivalence, elle se situe entre la liberté d'un côté, la contrainte du volant de l'autre ?
Absolument, absolument, effectivement, comme ça a été évoqué plus tôt, on a ce symbole d'une automobile qui autonomise, hein, autonomise à plusieurs égards, notamment mobilitaire, hein. On a accès à de nouvelles scènes sociales, on peut se trouver un travail, hein. Dans certaines régions, le permis B est obligatoire, c'est une ligne supplémentaire sur le CV. Et à côté de ça, effectivement, comme cela a aussi été évoqué, la question du coût, hein, face à une précarisation de la jeunesse, et le risque aussi de blesser ou de tuer l'autre qui revient énormément, hein, chez les jeunes que j'ai interrogé.
Et ce qui ne semble pas nouveau, hein, quelles que soient les époques, c'est que ce permis de conduire, quand on a 18 ans, eh bien c'est le passage à la vie d'adulte. Ça reste une constante.
Alors absolument, pour certains et certaines, je nuancerai un petit peu quand même ce propos-là, parce que pour d'autres, par contre, ça va être davantage une contrainte, quelque chose qu'il faut passer, alors même qu'ils n'en ont pas envie, d'une certaine manière. Ils vont être poussés, hein, par la famille et par les injonctions, certaines injonctions, hein, contemporaines. Pour d'autres, effectivement, ça va cristalliser, hein, ce passage à l'âge adulte, pour une raison extrêmement simple, c'est que le permis de conduire est l'un des derniers rites de passage caractéristiques, on va dire traditionnels, puisqu'il est reconnu non seulement par les pairs, PIRS, par les proches, mais aussi par l'État, hein, puisqu'il fait office de carte d'identité, en tout cas de pièce d'identité.
Des pièces officielles. Pour rédiger votre livre, vous avez donc interviewé des jeunes en ville et des jeunes aussi à la campagne. En quoi leur réponse sur le rapport à la voiture était différente ?
Eh bien, c'est vrai que c'est un des gros résultats, hein, de mon enquête, un résultat quasiment binaire, que je nuance quand même, hein, parce qu'il existe des exceptions, bien évidemment, mais on a d'un côté énormément de jeunes citadins qui me disent, voilà, la voiture et finalement le permis de conduire, j'ai pas envie de le passer, ou je l'ai passé un petit peu par contrainte, parce que, eh bien, il faut garer la voiture, on n'a pas nécessairement besoin pour se déplacer, pour accéder aux scènes sociales prisées de la jeunesse, alors que pour les ruraux, ou en tout cas celles et ceux qui sont plus éloignés des grands centres urbains, on est face à une voiture nécessité. Hein, comme je l'ai expliqué, ça permet non seulement de s'émanciper, hein, de ses parents, pour bouger, mais aussi, parfois, de trouver un travail. Ça en fait quelque chose d'extrêmement central, en fait, dans l'expérience juvénile.
Et donc la voiture, c'est bien plus qu'un moyen de déplacement, notamment quand on est jeune.
Absolument. La voiture est investie, même chez celles et ceux qui disent ne pas spécialement apprécier leur voiture. Hein, on a effectivement l'aspect mobilité, mais aussi l'aspect présentation de soi, puisque la manière qu'on a de conduire, eh bien, nous définit. La manière qu'on a de personnaliser sa voiture, ça peut être avec un petit autocollant ou des personnalisations plus importantes. En tout cas, voilà, une manière de se présenter à l'autre dans un monde, eh bien, fait d'adultes aussi qui conduisent comme elles et eux.
Et c'était aussi un atout, vous l'avez rappelé, pour trouver un boulot. Les 18-25 ans, c'est aussi une génération de tous les excès. Est-ce bien raisonnable de donner un permis de conduire à une génération qui se croit parfois immortelle au volant ?
Alors, une génération de tous les excès, ça va vraiment dépendre, hein, des personnes. Hein. Moi, j'ai rencontré des jeunes extrêmement prudents aussi. Effectivement, il y a, en revanche, et les études le montrent bien, parfois une survalorisation de ses compétences, surtout chez les garçons, par ailleurs, qui peut mener à ce qu'on appelle des conduites à risque, hein, voilà, prendre des risques pour prouver aux autres qui l'on est, ainsi de suite. Donc, en tout cas, je ne pourrais pas vraiment répondre à votre question.
Non, c'est
pas
moi qui décide. Je le disais un peu sur ton de l'ironie, mais ouais. Je voulais insister sur cet aspect-là. Maxime Duviau, vous restez avec nous encore, je voudrais vous poser une ou deux questions, le temps de me tourner vers Corinne Audouin. On évoque donc ce permis de conduire, un rite de passage qui irrigue aussi la culture populaire. Depuis très longtemps, Corinne, vous avez déniché d'ailleurs quelques pépites.
Oui, et ce n'est pas étonnant, hein, que ce soit dans la culture populaire, car c'est justement le plus populaire des examens. Plus d'un million et demi de candidats le passent chaque année. C'est deux fois plus que le bac. Né il y a un siècle, en 1922, eh bien, le permis inspire les chansonniers dès les années 30. Jean Bouillon et son orchestre en 1936.
Pour obtenir son permis de conduire, faut de la mémoire, du calme et du sang-froid, surtout pas nerf et garder le sourire, tout ira bien si chacun marche droit.
Bravo, très bien, et laissez-moi vous dire, quoi que vos réponses me laissent un peu rêveur, que je vous accorde votre permis de conduire, pour les brouettes et pour les triporteurs.
Merci monsieur, vous êtes bien gentil, vous frappez pas, on roulera sans permis.
Voilà. Les inspecteurs sont déjà des pots de vache et les conducteurs des irresponsables. Les affres de l'examen du permis sont une source de comique inépuisable. Alors certains, comme nous, Eric, se souviennent évidemment du sketch mythique de Jean-Yann dans les années 60 avec ce candidat qui est...
Il veut prendre une route départementale, mais il ne veut pas y aller.
Et en 64, Michel Serrault et Jean Poiret détournent avec génie cette figure obligée.
Je vais vous dire, mon cher ami, on est toujours un peu ému. Toujours un peu ému, et surtout quand on conduit pour la première fois, c'est certain.
Mais c'est pas la première fois, pas la première fois que vous conduisez.
Si, c'est la première fois, c'est la première fois que je conduis, oui.
Comment ça?
J'ai eu mon permis avant-hier, alors vous voyez, c'est tout.
Votre permis?
Mon permis de conduire.
De conduire?
De conduire les orchestres.
Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres.
Ah, bah oui, depuis 6 mois, on exige le permis. Oui.
Ah, je savais pas du
tout. Ah, si, il y a eu trop d'accidents, trop de couacs, trop de notes écrasées, et maintenant on exige le permis. Oui.
Il est certain que les gens dépassent la mesure bien souvent.
L'analogie continue comme ça, c'est vraiment une pépite à découvrir sur Internet. Dans les films d'action, la voiture auto-école qui zigzague, conduite par un novice braqué par Jean-Paul Belmondo dans Flic ou Voyou, devient l'ingrédient qui pimente la poursuite automobile classique.
Et à partir des années 70, Corinne, le permis devient aussi, dans la culture populaire, le symbole du passage à l'âge adulte.
Oui, on en parlait avec l'émergence de la jeunesse dans la société comme une catégorie à part entière. Avoir une voiture à soi devient une aspiration à la liberté. En 78, Renault a 26 ans quand il chante La Tire à Dédé.
Tendez-les, entonnez un coup dans les naseaux. Bien que j'ai pas mon permis, c'est moi qui conduisais. Je prenais que l'essence unique pour semer les perdants. Mais je bouclais ma ceinture parce que je suis pas givré. On embarquait des grosses qui rôdaient en banlieue et qui attendaient que nous pour s'éclater un peu. Allez, montez les filles, on s'arrache en vacances. Niveau plus loin, on leur faisait le coup de la panne d'essence. Dans la tire à délai, j'en ai fait des virées. Quand j'y repense aujourd'hui, sur ma moto, je m'ennuie.
Voilà, Renault en 78. L'obtention du permis accompagne aussi l'émancipation des femmes et la conquête de leur indépendance. Et ça ne se fait pas, évidemment, sans une certaine résistance. La reine du créneau par Anne Sylvestre.
Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière. Ah, je vous jure, allez, nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernaud, ils m'ont fait rater mon créneau.
Une chanson qui parlera pas mal de mes congénères féminines, je pense.
Oui.
On le rappelait, Eric, il existe un clivage entre les jeunes des villes et ceux de la périphérie. Pour eux, pour ceux de la banlieue, pas de permis ni de voiture, ça veut dire pas de travail. Réalité que chantaient en 2010 les rappeurs de Section d'Assaut.
Il serait temps que tu décotes un CDI, t'es des fiches de paye, t'as peu ça d'usée et du crédit, franchement t'es grave. En plus sérieux, faudrait que t'arrêtes de boire, de posticher sur sueur. Putain, mais t'es malade que t'as 25 piches, même pas foutu de passer le permis de conduire.
Voilà, 25 ans, toujours pas de permis, seul diplôme qui traverse les générations et les classes sociales. Un des derniers rituels du passage à l'âge adulte, source inépuisable de gags, métaphore des galères de la vie. Le permis était devenu mon secret, ma croix, ma blessure honteuse, écrit ainsi Gaspard Koenig dans Leçon de conduite. Eh bien, lancé l'ex-papier rose, Eric n'est pas prêt de disparaître des films, livres et chansons.
Le permis de conduire dans la culture populaire. Grand merci Corinne Audouin. Je me retourne vers vous Maxime Duviaux, enseignant et chercheur en sociologie à l'université de Limoges. On a parlé du permis et des jeunes. On vient de parler avec Corinne du permis de conduire et des femmes. Et les seniors, les 18-25 ans sont bien plus nombreux que les vieux à avoir des accidents de la route, accidents mortels même, mais c'est aux plus anciens donc que l'on envisage de retirer le permis de conduire. Là aussi, c'est une forme de sociabilité que l'on enlèverait aux seniors. Vous en pensez quoi, cette idée de retirer le permis de conduire au-delà d'un certain âge?
Alors moi, j'ai pas du tout travaillé sur les seniors. En revanche, effectivement, vous l'avez dit très justement, c'est un retrait de la sociabilité, surtout quand on connaît un petit peu la situation, eh bien, de précarité sociale des seniors éloignés des grandes villes. Enlever le permis, c'est aussi enlever une forme de soi, hein, de soi qui bouge, de soi mobile et de soi qui existe d'une certaine manière.
Eh bien, merci d'être venu nous expliquer tout ça en direct sur France Inter. Maxime Duviaux, je rappelle le titre de votre livre, Conduire. Pour pour grandir. Sociologie d'une jeunesse automobile, paru il y a quelques mois chez L'Harmattan. Vous écoutez Une semaine en France, à la technique ce soir. Loïc Frapsos, Julien Dumont et Arnaud Caillé. À suivre, l'actualité en région avec nos amis du réseau ICI.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais lisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau.
Le vent de Georges Brassens, revisité en fanfare il y a un quart de siècle par Catherine Ringer.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Le multiplex des régions, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Lorraine Nord, ici Drôme Ardèche, ici Gascogne, Fanette Hourte, Lison Bourgeois, Éric Ballanger. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer en Moselle, Fanette Hourte, car nous inaugurons avec vous la thématique des élections municipales de mars prochain. Chaque semaine, ici, dans cette séquence, nous illustrerons les thématiques développées localement. Eh bien, en Moselle, donc, Fanette, on se demande à quel point l'incertitude budgétaire de la France va peser sur ces élections.
Oui, parce que faute de consensus à l'Assemblée nationale, c'est donc le budget 2025 qui est reconduit, ce qui veut dire qu'il est figé, impossible d'ajouter de nouvelles dépenses, comme le financement de nouveaux projets par exemple. Et à cela s'ajoute en plus la baisse des aides de l'État, ce qui a parfois de lourdes conséquences pour les petites communes, notamment pour Volflin-les-Bouzonvilles. C'est là que je vous emmène, village de 170 habitants au nord-est de la Moselle. C'est bien simple, le maire sortant Alain Daoundorfer jette l'éponge. Cet électricien de 64 ans ne se représentera pas aux prochaines élections. Il en a ras-le-bol de s'arracher les cheveux et d'opter en permanence pour le système D.
Oui, parce que très souvent, le maire et les adjoints de cette commune de 270 habitants doivent mettre la main à la pâte.
Tout le numérique, par exemple, c'est un adjoint informaticien qui gère. Et puis, Alain Daoundorfer a voulu installer des LED dans la salle communale. Un électricien lui a proposé de les installer pour 100 euros la LED. Et bien, le maire les a trouvés, lui, à 27 euros et il les a donc installés lui-même. Bref, il conclut, amer, c'est tous les jours de l'équilibrisme et à la fin, ça devient usant.
De la Moselle, nous partons dans la Drôme. On va évoquer à présent la commune de Die dans la Drôme. Lison Bourgeois, on évoque cette commune car en plein mois de janvier sans alcool, la cave Jaillance qui produit la célèbre clairette de Die a développé une gamme sans alcool donc, et ça cartonne.
Oui, on peut dire ça. 100 000 bouteilles vendues en 2025 de la bulle de Muscat, un pétillant sans alcool produit par la cave coopérative Jaillance. Ça représente une augmentation quand même de 30% des ventes en un an. Un vrai boom dans le domaine, dit le directeur à notre micro sur Ici dans Ardèche. Avant, le sans-alcool était vu comme une contrainte. Maintenant, c'est une opportunité, dit-il. La cave de Jaillance, la première coopérative sur la clairette de Die, l'a bien compris et elle pousse à fond ce marché. Elle vient de changer l'étiquette de sa bulle de muscat, plus du tout de packaging original. On retrouve les mêmes codes que pour la clairette alcoolisée. Étiquette ovale, couleur jaune et rouge, coiffe dorée et marque Jaillance encore plus visible. La cave insiste aussi sur la qualité de ses bouteilles. 100% de jus de raisin muscat gazéifié, fermentation ajoutée et pas d'alcool donc. Tout ça avec un prix attractif de 6 euros la bouteille. La cave communique encore et encore sur sa gamme sans alcool et elle y pense beaucoup pour son avenir. Même s'il faut quand même nuancer ces chiffres, 100 000 bouteilles de bulles de muscat vendues en 2025, c'est sûr que c'est bien. Mais ça reste pas grand-chose à côté des 5 millions de bouteilles de clairette de Die produites par la Maison Jaillance, et ça chaque année.
Nous partons dans les Landes, Éric Ballanger, à propos de la colère agricole. Les jeunes agriculteurs ont volé le portail de la Direction départementale des territoires et de la mer, et les photomontages publiés sur Internet ne plaisent pas au préfet à tel point qu'il porte plainte.
Oui, au milieu de cette vague de colère, ils ont tenté d'apporter un peu de sourire. Le week-end dernier, ils ont volé le portail de la DDTM, la Direction des Territoires et de la Mer. Et depuis, ils ont inventé une sorte de jeu de piste. Ils publient sur leur Facebook des photomontages avec ce portail qui se trouverait d'abord devant la préfecture, et puis à la plage, et puis à Bordeaux. Une photo où on le voit à Toulouse. Il aurait pris le train à Paris à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le photomontage le montre à Bruxelles. Alors, il y en a un que ça n'a pas fait rire, c'est le préfet des Landes, Gilles Claverolle, pas réputé pourtant pour son absence de sens de l'humour, mais sur ce dossier, il a décidé de porter plainte pour vol aggravé. Et il s'explique, pendant que l'État est à pied d'œuvre pour trouver des solutions, ceux qui préfèrent casser plutôt que travailler en répondront devant la justice. Quoi qu'il en soit, cette chasse au trésor est toujours en cours et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait réagir. Des milliers de j'aime, des milliers de partages, des milliers de commentaires sous les publications Facebook des jeunes agriculteurs qui ont donc fait de ce fameux portail un symbole, le symbole des grilles administratives, c'est-à-dire de toutes ces normes qu'ils contestent à longueur d'année.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec le concours indispensable des radios et des journalistes du réseau. Ici, à suivre le journal du 19h d'Amélie Perrier. Et puis à 19h20, ce sera le téléphone sonne. On va demander à vous, chers auditeurs, comment vous gérez le caractère anxiogène de l'information. À tout de suite.